Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 9 avril 2026. Bien évidemment, les bombardements au Liban ont fait les unes de tous les médias ce matin. Donc nous, on va attendre certainement un petit peu la semaine prochaine pour en parler avec peut-être un peu plus de profondeur. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses de plus à vous apprendre à cette heure-ci. On va plutôt faire ce qu'on aime bien faire, des retours un peu réflexifs sur des événements proches, notamment cette histoire de garde à vue de Rima Hassan et des fuites qui ont été nombreuses et visiblement orchestrées dans les médias. On va parler d'un projet de loi d'urgence agricole qui permettrait de simplifier pas mal de démarches pour notamment des projets industriels ou agro-industriels à la campagne. Des retours aussi de petits jugements qui ont eu lieu notamment sur un parc photovoltaïque qui ne verra pas le jour dans le Gard au-dessus de Villeneuve-les-Avignon, un projet porté par Total Energy. Et on parlera aussi à travers l'affaire Cédric Prison, hein, donc les enlèvements puis meurtres de son ancienne campagne, deux assassinats sur fond de masculinisme avec notamment les groupes des pères en colère, voilà, avec quelques enquêtes qui ont fait un petit peu le point sur ces mouvances. Tout d'abord donc, les problèmes des fuites dans cette affaire de garde à vue de la députée insoumise Rima Hassan. Visiblement, il y aurait des problèmes de la police judiciaire jusqu'à la chancellerie. Et oui, même le porte-parole du ministère de la Justice s'est montré très bavard avec la presse pendant la garde à vue de cette eurodéputée insoumise le 2 avril, à tel point que cet épisode a quasiment été relayé en direct. Eh bien, l'élu, donc Rima Hassan, a déposé plainte pour violation du secret de l'enquête. D'ailleurs, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui a lui saisi l'inspection générale de la justice et le parquet de Paris ouvert une enquête, plutôt cocasse quand on sait que peut-être, certainement, les demandes émanaient de lui-même. En tout cas, de nombreuses informations, donc issues de cette garde à vue pour apologie du terrorisme, quand même, qui concernait Rima Hassan, qui a eu lieu le jeudi 2 avril, ont massivement circulé dans la presse ces derniers jours, notamment la possession de celle-ci dans son sac à main, peut-être de drogue de synthèse, qui finalement s'est apparu être surtout du CBD, qui n'était peut-être pas aussi pur que ce qu'il était vendu. En tout cas, les fuites donc concernent des éléments qui, en principe, relèvent du secret de l'enquête. De quoi donc pousser cet eurodéputé à déposer plainte pour violation du secret de l'enquête, c'est ce qu'a annoncé son avocat hier. La plainte s'appuie notamment sur un article du Canard Enchaîné qui a été publié hier, hein, et qui affirme justement qu'un porte-parole du ministère de la Justice, à savoir Sacha Strauss-Kahn, qui aurait échangé avec plusieurs journalistes pendant l'audition de Rima Hassan et discuté du contenu de sa garde à vue. Ces accusations sont d'ailleurs contestées par l'intéressé qui évoque de son côté des allégations mensongères de la part du Canard Enchaîné. En tout cas, face à cette polémique, le ministre de la Justice, donc Gérald Darmanin, a annoncé hier avoir saisi l'inspection générale de la justice. Il dit « J'ai fait mon travail depuis ce matin, l'inspection de la justice est saisie ». Il a déclaré ça à l'Assemblée nationale en réponse justement à une question du député Thomas Porte, lui aussi insoumis. Le parquet de Paris, de son côté, avait quant à lui déjà ouvert une enquête dès vendredi dernier justement pour violation du secret de l'enquête, en expliquant avoir agi au regard de la temporalité et du degré de précision des informations publiées dans les médias au cours même de la garde à vue, et ce avant toute communication légale. C'est d'ailleurs ce qu'a dû obliger Rima Hassan et son équipe à organiser une conférence de presse après pour s'exprimer justement sur les choses qui avaient été dévoilées dans les médias. Conférence de presse que je vous conseille aussi d'aller visionner, c'est assez édifiant, notamment la manière dont se comporte un des journalistes du Monde présent là. En tout cas, le parquet concernant ces fuites rappelle que le délit fait encourir la peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si quelqu'un était bien jugé coupable. C'est l'occasion un petit peu de parler justement du métier, de la déontologie en tout cas, et de comment ça se passe normalement. Pour qu'une fuite soit considérée donc comme illégale, elle doit justement provenir d'une personne qui est tenue au secret. Par exemple, un policier, un magistrat ou un avocat, le fameux secret professionnel. Ça ne concerne pas le journaliste, qui lui n'est pas tenu au secret, mais qui peut quand même être poursuivi pour recel de violation du secret. En gros, si quelqu'un qui est au secret lui dit quelque chose, il n'a pas le droit normalement lui aussi de le répéter. Dans les faits, malheureusement, ces fuites restent fréquentes, hein, c'est ce qui alimente quand même une partie justement des révélations des journaux. Selon l'avocate, elles peuvent quand même fragiliser des procédures, notamment en venant influencer des témoignages qui auraient lieu dans la foulée de l'instruction, ou en compromettant aussi certaines preuves. Dans le cas de Rima Hassan, alors, la presse avait évoqué dans sa source la découverte de quelques grammes d'une drogue de synthèse dans son sac. C'était lors de son placement en garde à vue, et cette information n'a d'ailleurs pas été corroborée par le parquet suite à la garde à vue, puisqu'il voulait attendre des résultats d'analyse complémentaire du produit pour se prononcer. Donc je rappelle que c'était pas une perquisition, hein. C'est Rima Hassan qui s'est elle-même rendue à cette garde à vue à laquelle elle a été convoquée. Donc elle a choisi quand même de prendre son sac à main dans lequel était visiblement présent quelques petites doses de CBD. Et donc elle a préparé son sac avant. Elle a d'ailleurs expliqué l'avoir indiqué spontanément avoir acheté légalement du CBD dans un magasin dont elle a donné l'adresse. Et elle ignorait qu'un produit d'une autre nature pouvait lui avoir été fourni à cette occasion. Il est en effet pas rare que dans les choses qui sont vendues légalement comme du CBD, on puisse trouver d'autres molécules, puisque les fabricants rajoutent des choses pour en augmenter les effets souvent. Et c'est le jeu aussi des choses qui ne sont pas encore interdites, mais pas encore légales non plus, notamment toute la problématique des drogues de synthèse. Je ferme la parenthèse. En tout cas, d'après donc, ce qu'expliquait toujours Rima Hassan, d'après ce qu'expliquait par contre son avocat, d'après les premières analyses effectuées par les services de police, la résine de CBD contiendrait donc des traces d'une drogue de synthèse. Elle n'avait pas donc un sachet de drogue à côté. Mais c'est pourtant cette version-là qui a été largement tordue et déformée dans pas mal de médias, ce qui a fait les choux gras de ceux qui voulaient justement casser du sucre sur le dos de Rima Hassan. Et donc, dans les analyses urinaires, n'ont pas été révélées la présence de telles grottes dans l'organisme de Madame Rima Hassan. Ça, ce sont les résultats des analyses fournies donc par elle dans le communiqué de presse. Et il rappelle que le CBD a été acheté dans un magasin de Bruxelles. Elle avait la facture et elle expliquait que c'était pour raison médicale. Voilà pour le petit épisode de fuite. J'ai pas envie de dire urinaire, mais fuite dans la presse. Et on rappelle quand même que Rima Hassan doit être jugée le 7 juillet donc pour apologie du terrorisme dans cette procédure, qui a donc concerné cette garde à vue de jeudi dernier. Ça vise un tweet qu'elle avait publié quelques jours plus tôt, supprimé par la suite, tweet dans lequel elle reprenait une citation de Kozo Okamoto, le terroriste japonais, qui était l'auteur d'une tuerie en Israël en 1972. Et elle sera aussi jugée d'ailleurs le 16 septembre dans deux autres affaires pour lesquelles elle était entendue ce vendredi. En tout cas, les révélations faites par le journal Canal, du Canard enchaîné, indigne Rima Hassan, qui parle, elle, de scandale d'État. Gérald Darmanin doit rendre des comptes, interpelle de son côté la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, dénonçant des allégations mensongères de la part du Canard enchaîné. Je vous le disais, le principal mis en cause, M. Strauss-Kahn, a lui confirmé sur X avoir déposé plainte de son côté pour diffamation, mais aussi pour des injures antisémites inacceptables, dont il a fait l'objet par la suite sur les réseaux sociaux, suite à donc au papier du Canard enchaîné. Mon rôle, a-t-il dit, est de porter la voix du ministère de la Justice et de faire preuve de pédagogie pour faire comprendre notre action aux journalistes qui le souhaitent. Ces échanges sont réguliers, concernent des sujets très variés et n'abordent jamais le fond des dossiers. Bon, alors faudra quand même qu'on nous explique qui a parlé de cette fameuse drogue.
Ah, la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Ah oui, j'ai fait la boulette.
On a repoussé les limites, là.
Ce mercredi 8 avril, le gouvernement transmettait au Conseil des ministres un projet de loi qui donnerait au préfet le pouvoir d'imposer, par exemple, des bassines dans le milieu agricole, en passant donc au-dessus des instances locales de l'eau. Mais il pourrait aussi, avec cette loi, maintenir des prélèvements annulée par la justice, donc le fait de remplir les bassines, et rendre facultatives les réunions publiques sur les projets de stockage d'eau. En gros, tout ce que les tribunaux ont censuré en 8 ans de recours contre les méga-bassines pourrait devenir légal d'un trait de plume avec cette loi qui est donc la loi d'urgence agricole, la LUA. C'est 23 articles en tout qui portent principalement sur la gestion de l'eau, mais aussi sur la prédation du loup ou les moyens de production agricole. Ça serait visiblement la réponse du gouvernement Le Cornu aux dernières colères du monde agricole. Visiblement, ils ont surtout suivi le calendrier de la FNSEA. Cette nouvelle loi est jugée d'écocidaire dans une gestion de crise toujours plus précipitée, faisant suite au hold-up démocratique du 13 janvier 2026, lorsque le Premier ministre décrétait un moratoire national sur les décisions qui concernent la gestion de l'eau. Et c'était donc en réaction aux événements du 11 décembre 2025. Et là, on était donc toujours dans le coin où justement les méga-bassines agitent l'actualité, notamment dans le bassin de la Vilaine. C'est d'ailleurs à eux qui nous font se communiquer pour alerter sur cette loi d'urgence agricole. Ce 11 décembre 2025, au sein de la commission locale de l'eau, la clé du bassin de la Vilaine, devait être définitivement adopté le schéma d'aménagement de la gestion des eaux, dans lequel était notamment comprise l'interdiction des herbicides sur des parcelles de maïs à proximité des aires de captage d'eau potable. Ce qui semble une règle de bon sens, mais qui a été malgré tout contestée par des agriculteurs plutôt pro-FNSEA, rejoints en cela par des adhérents de la coordination rurale. Ils ont tenté de bloquer la salle malgré la présence de la police et le fait que 5 jours plus tôt, Emmanuel Macron discutait avec le secrétaire justement de la FDSEA 35. Donc voilà un petit peu l'ambiance tendue autour de ces questions de l'eau. Et concrètement, cette nouvelle loi, la LUA, pourrait donner au préfet le pouvoir de déroger à ces fameux schémas d'aménagement de gestion des eaux ou de contourner l'avis des mêmes commissions locales de eau, donc les instances locales, pour imposer des bassines, donc fi de la démocratie locale. Les prélèvements d'eau pourraient être maintenus pendant 2 ans, même pour des projets qui sont contestés en justice. Et le texte réécrit aussi les modalités d'intervention de l'Office français de la biodiversité, ouvrant la porte à un affaiblissement de la protection des captages d'eau potable et des zones humides fragilisées. En clair, pour ses détracteurs, donc cette loi permettrait de rendre légales des pratiques qui sont aujourd'hui illégales, de simplifier les procédures pour les pires projets agro-industriels, de centraliser la gestion de l'eau dans les mains des préfets et du lobby de la FNSEA. C'est donc dans cette colère que les collectifs Bassines Non Merci et des organisations alliées signent ce communiqué, en expliquant le savoir mieux que quiconque. Depuis 2017, le mouvement de lutte contre les méga-bassines en Deux-Sèvres, et surtout le territoire d'ailleurs, 8 ans de mobilisation massive, de Sainte-Soline à Épane, des dizaines de décisions de justice annulant des projets illégaux, une pétition qui est toujours ouverte au Parlement européen d'ailleurs pour violation de 9 directives, et rappelle-t-il, un mouvement qui n'a cessé de grandir. Ils s'opposent donc farouchement à cette loi d'urgence agricole qui est pour eux un énième pansement pour acheter la paix sociale d'un côté tout en assurant l'immunité de l'agro-industrie de l'autre, un procédé antidémocratique qui trompe les attentes communes pour une alimentation saine, les revendications d'un revenu paysan décent et les nécessités de préserver l'eau pour la survie du vivant. Donc voilà un projet de loi sur lequel ils comptent bien peser et espérer son annulation. Je vous le rappelle qu'il a été transmis hier au Conseil des ministres.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
La justice aura tranché aussi dans l'affaire du roi de la salade. C'est une affaire de trafic de pesticides dont je vous avais déjà parlé il y a quelques mois, je pense. Le roi de la salade et son fournisseur seront donc lourdement condamnés. C'est pas un petit nom pour un dealer, hein. En tout cas, il prendra de la prison ferme et jusqu'à 450 000 euros d'amende si la peine était appliquée. Ce mardi, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé donc des peines exemplaires, hein, contre 6 agriculteurs des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, et donc celui qui leur fournissait les pesticides interdits. Didier Cornille, un des leaders du maraîchage en France, c'est celui qu'on surnomme le roi de la salade, fait partie de ces 6 condamnés. Il a lui pris 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal explique dans son jugement avoir tenu compte du caractère frauduleux et organisé des faits comme commis au mépris de la réglementation européenne et française et au préjudice de la sécurité des personnes et de l'environnement. Et d'ailleurs, le tribunal est allé au-delà des réquisitions. Il a prononcé des condamnations nettement plus lourdes, tant pour les personnes physiques que pour les sociétés qu'il représentait. Je rappelle que les enquêteurs avaient trouvé 3,5 tonnes de pesticides interdits dans les hangars de ces exploitations agricoles. Une partie des exploitants utilisait pourtant, malgré cela, des certifications environnementales. Par exemple, le label HVE, haute valeur environnementale, qui, vous l'aurez compris, n'est pas très très surveillé et visiblement ne veut pas dire grand-chose. Le tribunal a d'ailleurs retenu cette certification pour aggraver le constat moral en jugeant que les exploitants avaient choisi de se rendre complices de la falsification de factures et d'acquérir frauduleusement les produits interdits alors qu'ils arboraient des labels censés garantir de bonnes pratiques agricoles. D'ailleurs, l'association Génération Future, qui était partie civile dans cette affaire, rappelle aussi l'ironie de cette labellisation. C'est également d'ailleurs pour cette raison que le tribunal a prononcé une peine complémentaire d'interdiction de percevoir les aides de la PAC pendant un an. Voilà, la Génération Future salue dans son communiqué de presse des condamnations significatives qui envoient là un signal fort contre l'impunité dans l'utilisation frauduleuse des pesticides. Autre décision de justice qui vient protéger l'environnement, c'est dans le Gard, au-dessus de Villeneuve-les-Avignon, dans la commune de Tavel. Le Campé, c'est le nom de ce projet qui a été rejeté par arrêté préfectoral, un projet de parc photovoltaïque. C'est l'exploitant Total Énergie Renouvelable, donc la branche énergie renouvelable de Total, qui avait l'ambition d'installer une méga centrale photovoltaïque, à savoir 48 hectares de panneaux et d'installations énergétiques dans le secteur de Tavel. C'était prévu pour la fin 2027 le chantier, un chantier pharaonesque qui devait prendre place donc sur le plateau de Campé, à proximité du poste électrique RTE déjà en place. Pour cela, il aurait fallu déboiser une partie de la forêt communale qui est classée comme réservoir de biodiversité, 50 hectares quand même, hein. Après diverses études d'impact, donc, c'est la préfecture du Gard qui a rejeté finalement ce 20 mars 2026 la demande d'autorisation qui était lancée par Total Énergie Renouvelable. Les Sentinelles des Garrigues, une association locale, saluent la décision du préfet du Gard d'avoir rejeté justement cette demande d'autorisation environnementale. Un projet de centrale photovoltaïque au sol, disent-ils, porté par la branche française, cofinancé par un partenariat public-privé, et je le rappelle, qui aurait donc artificialisé 47,7 hectares au sol. La décision du tribunal s'appuie notamment sur des avis défavorables émis par le CNPN, c'est le Conseil national de la protection de la nature, mais aussi sur des insuffisances dans le dossier, notamment concernant l'impact sur la biodiversité et les espèces protégées. Pour les Sentinelles des Garrigues, donc, la décision constitue un signal important pour la protection des milieux naturels du Gard. Il rappelle d'ailleurs que la transition énergétique est indispensable, mais qu'elle ne peut pas se faire au détriment des espaces naturels et de la biodiversité. Les garrigues sont un patrimoine écologique et paysager unique et un ensemble d'écosystèmes essentiels pour faire face aux enjeux de ce siècle en termes de bouleversement climatique comme en termes de perte de biodiversité. Les garrigues méditerranéennes concentrent une biodiversité très riche, particulièrement des espèces endémiques au pourtour méditerranéen, et elles jouent un rôle irremplaçable dans les équilibres écologiques locaux, mais aussi pour le stockage du carbone, la gestion de l'eau et la régulation du climat. Voilà, ça a l'air de rien comme ça, les garrigues, mais il faut les préserver. Les associations membres d'ailleurs, donc des Sentinelles des Garrigues, qui, vous l'aurez compris, œuvrent pour leur préservation, rappellent qu'elles soutiennent pleinement la transition énergétique, elles ne sont pas contre le solaire, et donc le développement des énergies renouvelables. Mais d'ailleurs, comme le prévoient les documents cadres du territoire et comme recommande aussi le CNPN, elle rappelle qu'il faut mieux avoir une approche cohérente, donc privilégier l'installation de panneaux solaires sur des toitures, des parkings, des friches industrielles ou bien des espaces déjà artificialisés. Et Dieu sait s'il y en a, notamment dans la région, dans tous les ronds-points qui font la quantité de nos périphéries de villes. Pour le collectif, la protection des terres naturelles, agricoles et forestières constitue bien un enjeu majeur pour l'avenir des territoires. L'artificialisation au profit de projets industriels ne peut donc pas être considérée comme une solution durable, puisqu'elle entraîne une dégradation des sols, de la biodiversité et des paysages. Pardon, c'était... C'est pas parti. On part maintenant pour terminer un gros dossier qui a été notamment travaillé par Basta, le magazine Basta. Donc c'est sur basta.media. C'est dans l'affaire Cédric Prison que cela va se jouer. Derrière le fait divers, des assassinats masculinistes, c'est en tout cas sur toute cette mouvance qu'a enquêté le journal. Là, on rappelle que Cédric Prison, cet ancien policier, est accusé d'un double féminicide, et bien qu'il fréquentait depuis plusieurs années les sphères masculinistes liées à ces fameux droits des pères, SOS Papa, etc. C'est de ça dont on va parler. En tout cas, ce sont des groupes de pères en colère qui blâment les femmes et le féminisme, quitte à inciter parfois à l'action violente. Malheureusement, ça a été le cas dans ce drame. Cédric Prison, quand il était encore à l'extérieur, donc la quarantaine bien passée, il est très actif sur Facebook et sur TikTok, se filmant, interpellant parfois l'animateur Cyril Hanouna ou bien l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Il filme par exemple son ex-compagne devant la sortie de l'école, ou bien crache son venin contre celle qu'il traite de folle et de criminelle. Quand il est finalement arrêté au Portugal ce 24 mars, cela fait déjà plusieurs jours que son ex-compagne Audrey et sa compagne actuelle Angela, ainsi que leurs enfants, ont disparu en Aveyron. La cavale meurtrière se terminera avec la découverte des corps des deux femmes, alors que dans sa voiture, l'ancien policier avait caché plusieurs plaques d'immatriculation, des faux papiers d'identité et 17 000 euros en liquide, sans doute pour disparaître par la suite. C'est autour d'un conflit à propos de la garde alternée de leur fils que tout cela va dégénérer et se transformer en violence. Mais c'est pas nouveau, hein, puisqu'en 2021 déjà, celui-ci avait enlevé son fils, a été retrouvé 2 mois plus tard, écopant de 9 mois de prison, transformé en surveillance électronique à domicile, donc avec un bracelet. Son droit de garde lui est alors retiré. Et donc, suite à cela, il ne pouvait plus voir son fils qu'en présence des services sociaux. Dès lors, justement, il est devenu très actif sur Internet en multipliant des posts, vidéos, en allant manifester devant la mairie de Vallourles, dans l'Aveyron, et en alertant les médias sur son cas. Finalement, en 2023, il sera de nouveau condamné, cette fois-ci à 18 mois de prison et 2 ans de sursis probatoire, pour le harcèlement de son ex-compagne sur les réseaux sociaux. Cédric Prison a donc un bracelet électronique jusqu'en octobre 2025, et ses publications violentes en ligne ne diminuent pas. Des condamnations pour harcèlement, violence, 2 fois en 2021-2024, et également pour non-représentation d'enfants, tout cela n'est pas évoqué par la presse. Sur ses réseaux sociaux, lui prévient, et il dit « J'ai encore eu des messages de papa qui n'ont pas vu leur enfant depuis 1 an et demi, c'est une honte. S'il le faut, je vais foutre le bordel au niveau national. » Alors, les mouvements des droits des pères, donc, sont les représentants historiques du masculinisme, continue cet article donc, de Bastamag, puisque sous couvert de protester contre des inégalités en matière de garde d'enfants, au cours de séparation, ces associations accusent la justice d'être gangrénée par les femmes et par les féministes. Et d'ailleurs, l'histoire remonte à un moment. Hein, c'est souvent l'affaire du forcené de Cestas qui marque la première pierre blanche, l'arc fondateur de ces mouvements des pères. On est en février 1969 et c'est André Fourquet qui se retranche dans sa ferme avec ses 2 enfants. Séparé de la mère, il avait déjà enlevé ses enfants 2 ans plus tôt, ce qui avait donné lieu à 15 jours de négociations avec les gendarmes. Et en 69, il finira par tuer ses enfants et se suicider. Les groupes des pères commencent à manifester, eux, devant le tribunal de Rouen en 73, mais rappellent toujours cette histoire dramatique comme un petit peu mouvement fondateur. Par la suite, une nuée d'associations et quelques collectifs seront créés. La liste est longue, je ne vous les fais pas toutes. Mais la notoriété de ces associations a pu grandir, notamment suite à des actions d'envergure menées par certains de ses membres, par exemple celui de SOS Papa, c'était en 2013, hein. Vous vous rappelez de ce papa qui s'était perché sur une grue à 40 mètres de hauteur à Nantes. En 2023, Cédric Prison a lui rejoint le groupe Facebook Papa en colère, un groupe sur lequel les pères en colère donc font également mention incessante du syndrome d'aliénation parentale dont ils se disent victimes. Cette notion est non reconnue par la communauté scientifique. Elle décrit, enfin en tout cas elle voudrait décrire, un processus dans lequel un parent, souvent la mère, manipulerait son enfant pour le détourner de l'autre parent, souvent le père. Ce syndrome, entre guillemets, est donc très souvent convoqué par ces associations des droits des pères, régulièrement, pour nier des violences sexuelles ou intrafamiliales, dans lesquelles ils sont eux plutôt coupables, et ils présentent la mère comme manipulatrice et aliénante, et donc auteur de mensonges. En 2018, une note d'information a d'ailleurs été mise en ligne sur le site intranet de la Direction des Affaires Civiles et du sceau du ministère de la Justice, justement par rapport à cette histoire d'aliénation parentale, puisque c'est utilisé notamment par les avocats. Dans cette note, il y est question d'informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d'aliénation parentale. Comme le rappelle, ça c'était sur le site du Sénat, hein, qu'on pouvait lire ça. D'ailleurs, la chercheuse spécialiste du masculinisme, Stéphanie Lamy, le rappelle. L'idéologie promue dans le milieu radical masculiniste des pères enragés n'est pas seulement la haine des femmes, mais aussi celle de l'autorité de la justice qui contreviendrait, selon eux, à l'autorité naturelle des pères. Et pourtant, ces pères en colère bénéficient d'une forme de sympathie toujours dans les médias. Ils ont su adopter et adapter leur discours aux enjeux du moment, notamment par rapport à la question justement du partage des tâches. Édouard Leport est sociologue. Il a écrit une thèse sur les groupes de pères séparés. Il en a fait un livre ensuite. Et il explique que, de fait, depuis les années 2000, la rhétorique de ces groupes a changé. Ils vont plutôt parler de la protection et de la défense des enfants, de l'égalité parentale, de la coparentalité, pour donner une représentation positive. Ils se présentent souvent comme des gens qui voudraient une garde partagée. C'est tout le message déployé par ces pères. Ils veulent la garde alternée par défaut en cas de séparation. Cette rhétorique d'ailleurs consolide cette position de victime, alors que si on regarde les statistiques, la réalité est très différente, puisque dans 82% des séparations, il n'y a pas de litige concernant le mode de garde. Et si ce sont bien souvent les mères qui sont plus nombreuses à obtenir la garde, eh bien c'est bien très souvent parce que les pères ne la demandent pas. 5 décennies plus tôt, un ouvrage de référence pour cette sphère masculiniste a été publié. Il s'appelle « Le livre noir du divorce ». C'était en 73 et l'association s'appelait DIDEM, hein, Défense des intérêts des divorcés hommes et de leurs enfants mineurs. Dans ce livre, on y considère le divorce comme un parricide social et une malédiction jetée par la société démagogiquement féministe. Si le discours de surface a changé, vous voyez donc que le fond reste le même, puisque ce livre reste un livre de chevet de ces mouvements. Ces associations d'ailleurs arrivent à mener du lobbying, elles ont une certaine influence politique, et ce donc, je vous l'ai dit, au prix de l'invisibilisation de leur violence, notamment quand ils font les choux gras des journaux. De l'affaire de Cestas à celle de Cédric Prison, le mouvement des pères est peu inquiété par rapport à la violence dont il fait preuve. Au travers de leur rhétorique, les pères en colère martèlent que la violence conjugale serait d'ailleurs surestimée et qu'elle toucherait autant les hommes que les femmes et que les hommes seraient notamment principalement victimes, eux, de violences psychologiques qu'ils mettent donc sur un pied d'égalité avec les violences physiques dont, pour le coup, ils sont souvent accusés. Sans parler d'une culture d'ailleurs de l'impunité qui va justifier des comportements violents. Et ils sont nombreux dans cette mouvance. Je vous ai parlé des enlèvements, mais aussi d'intimidation ou de harcèlement, que ce soit en ligne ou dans la rue. Stéphanie Lamy, elle a écrit « La terreur masculiniste » aux éditions du Détour en 2024. Elle est d'ailleurs à l'origine d'une pétition. Et elle demande, elle, à ce que le parquet national antiterroriste se saisisse de ce double féminicide de Audrey Angela. Une qualification antiterroriste qui permettrait, selon elle, des enquêtes plus poussées, justement, sur ces milieux des pères séparés, et permettrait peut-être de renforcer la protection des victimes ou d'ouvrir des droits pour les familles des victimes. C'est Gwenola Sueur qui interroge, elle est sociologue aussi. Elle dit « Des membres des associations pionnières revendiquent des actions violentes, comme reproduire ce qui s'est passé à Cestas, faire du chantage au suicide, recourir aux armes ou déposer des engins explosifs devant les tribunaux. Cela n'est-il pas du terrorisme ? » Alors, du côté justement de la justice et de Olivier Christène, qui est le procureur national antiterroriste, il annonçait ce 3 avril justement ne pas saisir l'affaire Cédric Prison, en dépit des demandes donc, de plusieurs militantes féministes, mais aussi du Haut Conseil à l'égalité. L'an passé, Gérald Darmanin, encore lui, ministre de la Justice, affirmait de sa part que la DGSI, donc la Sécurité Intérieure, les renseignements, avait un bureau de suivi des masculinistes, mais des incels, comme il y en a pour l'ultra-droite, l'ultra-gauche, les islamistes radicaux, donc pas spécifiquement sur cette question du mouvement des pères. Les chercheurs souhaitent quand même nuancer leur enquête, et rappellent qu'à force de trop se concentrer sur des cas particuliers, comme celui de Cédric Prison, on occulte la violence masculine ordinaire. une violence plus diffuse, plus difficile à documenter, selon Gwenola Sueur, et donc plus difficile à détecter, même par la justice.
C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.
Et voilà les amis, on s'arrête ici pour les nouvelles du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.